Constance, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères en leur donnant le baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà donc comment se termine cette première épître à l'église de Thessalonique. Alors, les règles de bonne prédication sont en principe de souligner une vérité centrale. Ce que à la Hurne appelle la VAS, la vérité à souligner. Bon, c'est valable aussi pour les adultes, hein, comme pour les enfants. Je ne le ferai pas cette fois, parce que je trouve que, bon, il aurait fallu que dans ce catalogue-là que donne l'apôtre Paul à la fin de sa lettre, cette espèce d'exhortation en rafale, hein, j'en choisisse une pour vraiment la souligner. J'ai préféré ne pas le faire, et on va donc, cette prédication va plus se rapprocher d'une étude biblique que d'un message. Je vous le dis à l'avance, comme ça vous ne serez pas surpris. Mais vous allez voir, c'est quand même vraiment super. Donc, on a lu la deuxième partie du verset 13. « Soyez en paix entre vous. » Exhortation combien utile et à laquelle nous obéissons bien mal, forcé de le reconnaître. Notre Église a connu de multiples conflits internes ces dernières années et même ces derniers mois. Il y a encore bien des blessures qui mettront du temps à cicatriser. La paix est une chose précieuse, mais très fragile. La discorde peut résulter de divergences de vues inévitables du fait de notre faiblesse, tout simplement. Nous ne sommes que des hommes qui ne voient qu'au moyen d'un miroir d'une manière confuse et nous ne connaissons que partiellement. Ah, j'ai pas pris le... Elle s'appelle pour... Elle est là ?
Ah, si, si.
Voilà. Est-ce que j'ai un Corinthien là? Non.
C'est celle d'avant.
C'est, oui, voilà.
Mais en fait, vas-y.
Ah, d'accord.
C'est celle d'avant. Ah, si, c'est...
Voilà. Voilà, hein, soyez en paix entre vous. Alors, je disais que la paix est tellement fragile, même parmi les chrétiens, c'est parce que c'est à cause de notre faiblesse. Et rappelons-nous donc ce passage de 1 Corinthiens 13, verset 12. Que vous avez là sous les yeux. Aujourd'hui, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Mais alors, c'est-à-dire quand nous serons parvenus dans la perfection, hein, nous verrons directement, hein, il n'y aura pas d'intermédiaire. Mais cette paix peut malheureusement venir, enfin cette faiblesse, hein, peut malheureusement venir aussi de l'orgueil, de la certitude d'avoir raison, du manque de considération pour les autres, etc. Alors nous sommes contraints, dans ce cas, d'en payer le prix, qui est la perte de la paix. Il me semble que ce bien précieux commence à revenir dans notre Église, grâce à l'action du Saint-Esprit parmi nous, n'en doutons pas, qui est en train de mener une œuvre de reconstruction. Mais soyons lucides, ce renouveau ne tiendra que si nous sommes prêts à sacrifier nos divergences éventuelles à la recherche coûte que coûte de la paix entre nous. Mettons-nous humblement au bénéfice de la prière de Paul, au chapitre 3, verset 12, on avait vu ça dans la première aux Thessaloniciens, hein, « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et pour tous les hommes. » Hop, non, pardon, je n'ai pas pris le bon truc, voilà. J'arrive au verset 14, « Nous vous y exhortons, frères. » Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors j'ai déjà commenté ce sujet. de frères et sœurs qui vivent dans le désordre. Il s'agissait sans doute, chez les chrétiens de Thessalonique, d'une mauvaise compréhension de l'enseignement de Paul sur le retour du Seigneur Jésus. Certains le pensaient très proche, ce retour, et donc estimaient qu'il n'était plus nécessaire de travailler. Au contraire, Paul les exhorte, et à travers eux nous aussi, à vaquer à leurs propres affaires et donc à travailler pour gagner leur vie. Cela amenait certains à vivre au crochet des autres, au lieu de travailler pour subvenir à leurs propres besoins et par leur libéralité à ceux des autres. C'est ce que Paul appelle un désordre. L'enseignement de l'Écriture est clair sur la nécessité de gagner son propre pain, comme les autres hommes, dans un monde marqué par la chute et la pénibilité du travail. On voit ça en Genèse 3, verset 19. Je ne sais plus si je l'ai mis ou je l'ai mis. Voilà. Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Nous sommes quand même dans une création maudite. Le sol est maudit à cause de toi et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Donc, notre Église n'a pas été totalement exempte de ce travail, de ce travers, ça a existé en tout cas, je ne pense pas maintenant. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, mais il faut veiller, il faut y veiller parce que c'est une pente naturelle. 14b, la deuxième partie du verset 14. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dieu, dans sa grâce, nous a donné une formidable famille, l'Église. Il est inévitable que certains se découragent, soient abattus. Eh bien, il est de la responsabilité de tous de les consoler. Alors, c'est quoi les faibles ? Sous la plume de Paul, ce sont ceux qui sont paralysés par des scrupules de conscience, reposant sur des bases erronées qui n'ont rien à voir avec ce que dit la parole de Dieu. Paul traite la question à fond dans son épître aux Romains, au chapitre 14, et il en tire la conclusion au début du verset 15, au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Le principe de l'amour fraternel doit l'emporter sur la certitude d'avoir raison, au moins pour les questions qui ne sont pas fondamentales. Cela ne veut bien sûr pas dire accepter une hérésie. Là, il faut être ferme et surtout persuasif, mais ne pas se chamailler sur des questions d'opinion secondaire. Et ce que demande l'apôtre est effectivement un exercice de patience envers tous, dit-il. Patienter, c'est espérer le changement sans se plaindre et sans récriminer. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soit entre vous. Je prends un exemple simple que nous avons tous probablement vécu un jour ou l'autre. Quand je reçois un mail désagréable, voire injuste, de la part d'un frère ou d'une sœur, mon premier réflexe est de cliquer sur « répondre » et de me lancer dans une réponse courroucée. C'est un très mauvais réflexe. Ce mail nous a fâchés, voire blessés. Prenons le temps de la réflexion avant de répondre du tac au tac. Ce serait exactement rendre le mal pour le mal. Prenons le temps d'expliquer de vive voix pourquoi ce mail nous a fâchés et pardonnons-nous réciproquement. Soit envers tous. Essayons de nous mettre dans la peau de nos frères et sœurs persécutés pour leur foi dans de nombreux pays. Eux aussi sont exhortés, à ne pas rendre le mal pour le mal. Et ça, vous imaginez, comme ça doit être difficile. Alors que c'est un réflexe naturel de notre vieil homme. Les bulletins de portes ouvertes sont très édifiants à ce propos. Il nous montre comment nos frères et sœurs persécutés réagissent au mauvais traitement de leurs agresseurs par la douceur et en priant pour qu'ils soient éclairés par l'évangile de la grâce. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Bon. Là, nous serions tentés de dire à Paul, là, franchement, tu y vas fort. Comment peut-on être joyeux quand tout semble aller mal, quand on est malade, quand on perd un être cher, quand on subit l'amoindrissement de la vieillesse, etc. Paul ose dire une parole aussi forte en raison de l'espérance qui devrait illuminer toutes nos circonstances au travers de nos difficultés. L'espérance de la vie dans la présence du Seigneur sur une terre renouvelée est exempte de péché. Vous vous rendez compte? Dans le premier chapitre de cette lettre, Paul a vanté la persévérance des Thessaloniciens. Persévérance soutenue par leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas vague. C'est une personne, notre espérance. C'est une personne et nous appelons de nos voeux sa venue. Amen. Viens, Seigneur Jésus, dit Jean à la fin de son livre, l'Apocalypse, hein, le dernier livre de la Bible. Verset 17. Priez sans cesse. Bien sûr, cette exhortation de Paul est une hyperbole. Hyperbole, ça veut dire une exagération. Hein. Il est clair que personne n'est capable de prier en permanence, enfin, moi je crois. Hein. Mais c'est un état d'esprit, une disposition volontaire du cœur de tout remettre au Seigneur. Lui dire merci pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne dans sa grâce et aussi lui remettre les mauvaises dans la confiance qu'il est infiniment plus sage que nous et qu'il saura apporter la solution car il nous aime. Et si nous sommes secs quant au sujet à demander à notre Père Céleste, alors disons-lui simplement la prière que Jésus nous a enseignée. Elle contient tout l'essentiel et en particulier notre attente de la plénitude de son règne sur notre terre comme au ciel. Verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce. Merci. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Vous vous rendez compte? En toutes circonstances. Hein. En toutes circonstances, remerciez. Rendre grâce, c'est tout simplement remercier. Dans nos milieux évangéliques, il est traditionnel de rendre grâce pour les repas que nous prenons. C'est une excellente chose qui ne doit jamais devenir une routine religieuse. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu à souffrir de la faim, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays du monde. Sachons discerner la bonté de notre Dieu envers nous dans les circonstances ordinaires de la vie et remercions-le, même s'il nous fait passer par des épreuves pour notre bien. Je ne sais pas si vous recevez le bulletin de Portes Ouvertes, il y avait un exemple magnifique au sujet de la prière d'une petite fille pour un repas. Vous avez lu cet article, non? Je vous le raconte en deux mots. Hein. J'aurais dû l'amener d'ailleurs. Une petite fille était chez elle toute seule. On frappe à sa porte un policier qui venait, c'est dans un pays d'Europe de l'Est. Hein. Un policier entre et ce policier venait en fait arrêter le papa. Le papa, pasteur d'une église clandestine, et il venait pour arrêter le papa. Et donc il demande, je voudrais voir M. Untel. Et la petite fille dit, ah ben, il n'est pas encore rentré, mais vous pouvez l'attendre si vous voulez. Et donc, le policier accepte et il attend. Et puis le temps passe et le papa ne revient toujours pas. Puis au bout d'un moment, la petite fille dit, mais vous savez, c'est l'heure de mon repas, hein. Si vous voulez, on peut manger ensemble. Bon, le policier accepte. Et donc, elle prépare son frichti et elle le partage avec le policier. Mais avant de manger, elle dit, j'ai l'habitude de prier, on a l'habitude chez nous de prier avant le repas. Alors si ça vous ennuie, je vais prier pour mon repas. Et puis je prierai pour vous aussi. Et donc, elle prie, elle rend grâce pour le repas. Ça a tellement frappé ce policier que cette petite fille rend grâce pour la nourriture, et y compris l'associe à ce remerciement qu'il a voulu en savoir plus. Bon, le pasteur est finalement arrivé, il est rentré, hein. Il a voulu en savoir plus, il a demandé au papa et puis il s'est converti. C'est vraiment une histoire extraordinaire, oui, simplement en rendant grâce pour un repas. Voilà. Alors, je ne sais pas si le policier a arrêté le papa finalement, je crois que l'histoire ne le raconte pas. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. La parole de Dieu enseigne clairement que l'esprit est une personne, pas seulement une puissance, bien que l'esprit soit puissant également. Cette personne qui vit en nous depuis notre nouvelle naissance peut être attristée par notre comportement, et même à la limite éteint, un peu comme une flamme qu'on mettrait dans de l'eau, et qui de ce fait ne produit plus ni lumière ni chaleur. Nous avons besoin du Saint-Esprit à tout moment de notre vie chrétienne. On a besoin de lui pour comprendre la parole de Dieu, et y obéir surtout, et aussi pour vivre une communion fraternelle réelle et vivante, marquée par un amour véritable les uns pour les autres. Versets 21 et 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors Paul ne dit pas à quelle prophétie il fait allusion. S'agit-il des prophéties bibliques, et elles ne manquent pas, ou des prophéties données par ceux dans l'Église qui ont reçu ce don pour l'édification de leurs frères et sœurs? Il s'agit probablement des deux, hein, aussi bien les prophéties de l'Ancien Testament, qui sont toujours utiles pour comprendre le plan de Dieu, voire même des prophéties énoncées dans l'Église chrétienne. En ce qui concerne les prophéties de l'Ancien Testament, elles sont à considérer comme vraies et totalement dignes d'être reçues, étant la plupart du temps précédées par des formules comme « ainsi parle l'Éternel ». Donc là, il n'est pas question de discuter. Hein. Les prophéties prononcées par les prophètes de l'Église n'ont pas la même autorité, on le voit bien, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, au verset 29. Paul dit « que deux ou trois parlent et que les autres jugent ». C'est au sujet des prophéties. Hein. Cela concorde tout à fait avec ce que dit Paul aux Thessaloniciens. « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Cet exercice nécessite bien sûr une certaine dose de discernement spirituel qui s'acquiert par la fréquentation de la parole de Dieu et sa méditation, et aussi par la sensibilité à la parole de l'Esprit-Saint. Versets 22 à 24. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. J'avais déjà commenté ce verset dans la prédication que j'avais donnée lors de notre culte en commun avec nos amis de la rue de Riotier au sujet de l'amour et de l'estime dus aux anciens. Paul place toutes les exhortations que nous venons de lire dans la perspective du retour du Seigneur Jésus. Paul veut que le peuple de Dieu soit irréprochable dans ce jour-là que toute la Bible appelle le jour du Seigneur. J'avais fait remarquer qu'il dit la même chose avec l'image de l'épouse de Christ en Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et que ce qualificatif d'irréprochable est le même qu'utilise Jean en Apocalypse 14, versets 4 et 5. Dans l'Apocalypse, Jean a une vision de 144 000 personnes, un chiffre très précis, bien sûr symbolique, typifiant les rachetés de tous les temps, qui avaient le nom de l'agneau et le nom de son père écrits sur leur front. Il dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, au contraire de tous ceux qui suivent le diable, le père du mensonge. Et Jean ajoute, ils sont irréprochables. On retrouve ce mot d'irréprochable. Même chose, le même mot que Paul utilise pour l'Église en Éphésiens 5, hein, elle est irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors Paul émet le vœu que notre être tout entier soit conservé irréprochable, sans reproche. Il détaille même l'esprit, pneuma en grec, l'âme, psyché, et le corps, soma. Un peu comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le fait quand il parle de l'action de la parole de Dieu. En Hébreux 4, verset 12, L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Alors, cette distinction, notamment, alors, le corps, pas de souci, on sait ce que c'est. Hein. L'âme et l'esprit, bon, il y a manifestement discussion hein, parmi les théologiens, même évangéliques. Bon, c'est l'être intérieur. Mais cet être intérieur a-t-il deux composantes hein, l'âme et l'esprit. D'après l'étude sur la vie chrétienne normale, on voit que, très clairement, Watchman Nee affirme qu'il y a bien ces deux composantes, l'âme et l'esprit, avec des différences entre les deux. Hein. L'âme étant le siège de notre, à la fois de nos sentiments, de notre volonté, etc. Et l'esprit, cette partie tout à fait surnaturelle, qui est seule capable de communiquer avec Dieu. Notre corps doit être conservé sain dans l'optique du retour du Seigneur Jésus. Paul en fait une application quant à la pureté sexuelle en 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Il écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Fuyez l'inconduite. Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Il en est de même, de notre âme et de notre esprit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle même de notre cœur. Hein, il introduit encore un mot supplémentaire. Mot qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Un autre terme pour parler aussi de notre être intérieur. Il s'agit là de la pureté de nos pensées, d'où découlent d'ailleurs nos actions, c'est-à-dire la vie de notre être intérieur tout entier. En Colossiens 3, versets 2 à 4, voilà, merci, Paul écrit « Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On retrouve aussi hein, la même perspective du jour du Seigneur. Cette sanctification peut nous paraître un but tellement élevé qu'il est inaccessible, et cela pourrait nous décourager. Aussi Paul ajoute aussitôt, au verset 24 de ce qu'on vient de dire, « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Mais bien sûr, il ne fera rien contre notre volonté, c'est-à-dire si nous nous laissons aller à éteindre l'esprit qui vit en nous. On arrive à la fin de la lettre, de cette belle lettre de Paul, verset 25, « Frères, priez pour nous. Le grand apôtre des nations a besoin des prières de ces païens auxquels il a révélé l'évangile de la grâce. » Vous voyez son humilité. Combien plus avons-nous, nous aussi, besoin des prières les uns des autres ? Verset 26, « Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. » La pandémie nous a privés de l'usage traditionnel du baiser fraternel. Mais nous le remplaçons avec bonheur par diverses marques d'affection affectueuse qui jouent le même rôle. Ce temps que nous prenons à la fin de nos cultes pour nous saluer, prendre des nouvelles les uns des autres, est un temps heureux et précieux à ne pas escamoter. Dans certaines églises, le président de culte incite l'assemblée à prendre un moment pour saluer ses voisins immédiats, surtout dans les grandes églises. C'est une forme de mise en pratique de l'exhortation apostolique que nous venons de lire. Bon, la petite taille de notre église nous permet de nous saluer facilement tous. Alors ne nous en privons pas. Que ce ne soit pas des salutations formelles, sans engagement du cœur, mais sincères. Le sincère reflet de l'intérêt et de l'affection que nous nous portons mutuellement. Verset 27, Paul insiste pour que cette lettre adressée à l'église de Thessalonique soit portée à la connaissance de tous les membres de cette Église. Elle n'est pas réservée aux seuls dirigeants. Chacun doit y trouver encouragement et avertissement pour conformer sa vie aux instructions des apôtres du Christ, Instructions qui sont, ne l'oublions pas, la parole même de Dieu. Verset 28. Dans sa dernière phrase, Paul invoque la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle nous serions encore dans la nuit de notre péché et dans l'éloignement de notre Père céleste. Comme il l'écrit au chapitre 5, verset 10, il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie.